l'ouverture des marchés américains avec nos deux spécialistes. Aude Kersulek, en direct d'Euronext, et John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour à tous les deux, ravi de vous retrouver. Aude, l'ouverture des marchés américains, comment est-ce que ça s'oriente ?
Ouverture en hausse, hein, ça y est, en belle hausse même pour cette ouverture, plus 0,7% pour le S&P, plus 0,5% pour le Nasdaq et même plus de 1% de hausse pour le Dow Jones. Voilà la saison des résultats d'entreprise en fait qui est sur le point de prendre totalement le pas sur ce qui s'est passé ce week-end, les tensions au Moyen-Orient et le risque de réplique d'Israël. Alors finalement, on rebondit aussi sur les bons résultats donc de Goldman Sachs, hein, quasiment 6% de hausse, on y reviendra. Et sur l'espoir, évidemment, que le conflit au Moyen-Orient ne s'aggrave pas davantage. La volatilité est très basse, hein, on est toujours sur les 16 points. Attention tout de même aux taux, hein, les taux obligataires qui connaissent une flambée depuis ce week-end. Donc, forcément, ça coïncide avec l'attaque de Téhéran. Le taux 10 ans américain qui est tout de même au-dessus de 4,6%.
Merci beaucoup, Aude. Vous restez avec nous. On va donner la parole à John Plassard. John, bonjour. On va commencer par les publications macroéconomiques, je le disais en titre, les ventes au détail aux États-Unis qui ont progressé de 0,7% au mois de mars. Je crois que c'est pratiquement deux fois supérieur au consensus.
Oui, tout à fait. Le consensus, Stéphane, attendait 0,3%. Il faut rappeler que les chiffres du mois de février ont été révisés à la hausse. C'était normalement 0,6%. On est à 0,9% de croissance. Donc, c'est une vigueur extrêmement importante aux États-Unis. Si on regarde un tout petit peu plus dans les détails, on voit que ceux qui ont le plus bénéficié de ces hausses sont les détaillants hors magasin et les stations-service. Qu'est-ce que ça veut dire ? Très concrètement, ça veut dire que les prix à la pompe ont monté et les Américains, pour avoir le même nombre d'essence pour remplir leur voiture, eh bien, ont dépensé plus. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains ont dépensé plus pour avoir moins. Donc, ce n'est pas dû à un effet de vente supplémentaire, mais plutôt à une inflation qui pousse les Américains à dépenser plus. Et c'est ce que nous traduit ces chiffres du jour avec, il faut le rappeler, une vigueur économique américaine qui, au premier trimestre, devrait être de plus de 2%.
Et dans l'actualité également, on va parler des banques centrales, Aude, puisque plusieurs membres de la Fed ont pris la parole ce week-end.
Et ouais, même si ce week-end on a beaucoup parlé de missiles balistiques ou dôme de fer, on continue aussi de parler de sujets qui nous a mis un peu plus sur les marchés, les fameuses baisses de taux avant la réunion de la réserve fédérale dans deux semaines. Cette semaine, ça va être les derniers jours de la quiet period, hein, où les membres vont encore pouvoir s'exprimer, les gouverneurs de la Fed. Alors aujourd'hui, on a Mary Daly pour la Fed de San Francisco qui va parler. Elle est plutôt dovish, hein, John. Alors finalement, de qui doit-on vraiment se méfier et qu'est-ce qui pourrait être dit ?
Alors écoutez, Aude, c'est très compliqué parce que on a vu ce week-end d'un côté que le président de la Fed de Minneapolis, Kashkari, a dit qu'il pensait qu'il pourrait ne pas y avoir de baisse de taux cette année, alors que de l'autre côté, le président de la Fed de New York, Williams, a dit que les premières baisses de taux devraient arriver en juin. Donc ils disent tout et son contraire. Mais ce qui sera très important en termes monétaires de suivre cette semaine, c'est bien évidemment la publication du Beige Book mercredi. Vous savez, le Beige Book, c'est le fameux document préparatoire avant la réunion de la Réserve fédérale américaine qui aura lieu le 1er mai. Et donc, on en apprendra un tout petit peu plus sur les intentions, sur les réelles intentions des membres de la Fed sur des baisses de taux ou pas. Et il faut rappeler aussi aujourd'hui, ce qui est important, c'est que de plus en plus de grandes banques, et notamment Goldman Sachs, pour la première fois évoquent, même si ce n'est pas leur scénario central, qu'il pourrait ne pas y avoir de baisse de taux cette année. Donc ça devient presque consensuel, même si le consensus lui-même parie sur deux baisses de taux cette année.
Voilà, et en cas de statu quo monétaire aux États-Unis jusqu'aux élections, au moins, quelles conséquences pour la Banque Centrale Européenne ? En quoi est-ce que ça réduit les marges de manœuvre ? On en parlera dans le club tout à l'heure, à 17h avec nos invités. John, nous sommes à 203 jours de l'élection présidentielle américaine. L'attaque de l'Iran sur Israël ce week-end, évidemment, s'est invitée dans cette campagne pour les élections.
Et puis, il faut rappeler les conditions et surtout la journée historique aujourd'hui. Donald Trump, qui est le premier président américain à subir un procès au pénal. Et donc, on va beaucoup en parler. Et il essaye, bien évidemment, l'ancien président et potentiellement futur président, eh bien, de s'immiscer dans toutes les discussions, et notamment les discussions géopolitiques. Et tenez-vous bien, Stéphane, eh bien, Donald Trump a déclaré que l'attaque aérienne massive qu'on a vue contre Israël ce week-end n'aurait pas eu lieu si son administration avait été à la Maison-Blanche. Il a même dit que l'administration Biden avait fait preuve d'une faiblesse incroyable. Donc on imagine ici que malgré des questions géopolitiques très importantes qui n'ont rien à voir, enfin directement avec les États-Unis, eh bien Donald Trump essaye d'en tirer profit, et on va voir dans les prochaines semaines et les prochains mois, eh bien ce type de discussion géopolitique sur le Proche-Orient, sur l'Ukraine, eh bien s'immiscer dans la politique américaine. Et donc très intéressant de regarder ce qui s'y passe aujourd'hui.
On passe à l'actualité entreprise avec vous, Aude, et ce changement sur le podium, ce n'est plus Apple qui est numéro un mondial des smartphones.
Oui, vous savez, Stéphane, John, il y a deux champions qui ont perdu leur place ce week-end. Il y a en Allemagne le Bayern Munich pour la Bundesliga, et puis il y a Apple qui a perdu sa place sur le marché des smartphones au profit de Samsung. Et ça se passe pas à l'ouverture pour le géant à la pomme, puisqu'on perd 1,5%. Est-ce que cette nouvelle peut faire mal à Apple, John?
Oui, parce que c'est un changement de tendance. On a vu que sur le premier trimestre, les ventes de iPhone avaient chuté de 10%, alors que globalement, les ventes de smartphones, eh bien, avaient légèrement augmenté. Donc, Apple va à l'encontre de la tendance. Et la société, donc, à la pomme, a expédié 50,1 millions de iPhone, alors que le consensus attendait 51,7 millions. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on a eu l'autre information concernant Samsung. Vous avez le gouvernement américain qui va accorder jusqu'à 6,4 milliards de dollars de subventions à Samsung, donc, pour que le groupe développe ses puces aux États-Unis, au Texas. Donc on voit ici que potentiellement, c'est un changement de leadership sur les puces et sur les smartphones. Donc très intéressant de regarder, et la réaction en bourse est tout à fait normale aujourd'hui.
Toujours dans l'actualité entreprise aux États-Unis, John, Tesla, le géant des voitures électriques, a annoncé une réduction du prix des abonnements à la conduite autonome.
Ouais, très important, Tesla, puisque on sait que Tesla souffre de la baisse globale des ventes de véhicules électriques, de la concurrence des acteurs chinois et des ventes un peu plus maigres en Chine. On a vu que Tesla avait déjà réduit le prix de ses véhicules aux États-Unis, en Chine et en Europe. Et bien là, tenez-vous bien, ses abonnements au logiciel de conduite autonome intégrale vont être baissés. Le prix de ceux-ci vont être baissés. Donc pour tenter de relancer les ventes, mais effectivement, ça aura un impact sur les marges, et on va l'apprendre dans la publication de leurs résultats ces prochaines semaines.
Et justement, on va parler de publication de résultats avec vous, Aude, dans le secteur bancaire.
Oui, après de premières banques déjà vendredi. Ce lundi, c'était Goldman Sachs qui publiait son premier trimestre avec des résultats au-dessus des attentes. Mais ça, c'était déjà le cas aussi vendredi. Mais là, ça devrait bien se passer aussi pour la suite, parce que finalement, Goldman Sachs est plutôt dépendant des activités de marché et de banques d'affaires que les banques comme JP Morgan ou Wells Fargo. Et c'est d'ailleurs très, très bien applaudi cette publication, John, parce que le titre Goldman Sachs est déjà en augmentation de 5%.
Oui, tout à fait. Lorsqu'on regarde Goldman Sachs, on ne se focalise pas spécialement sur le bénéfice, qui était de 4,13 milliards, mais vous l'avez dit, sur sa principale division, banque globale et marché, puisque Goldman Sachs a revendiqué des très fortes performances, à la fois sur les commissions de la banque d'investissement, plus 32%, des revenus fixes, devises, matières premières et des actions. Donc tout se passe bien de ce côté-là, mais il faut rappeler une chose, c'est que JP Morgan, et vous l'avez dit, Aude, vendredi vendredi, avait dit que la hausse des taux d'intérêt et les taux d'intérêt très élevés commençaient à impacter la demande des consommateurs et des entreprises pour de nouveaux emprunts.
Et puis on termine par cette information qu'on redoutait un peu, les difficultés de Boeing, John, commencent à avoir un impact sur les sous-traitants, notamment Spirit AeroSystems, c'est un fabricant d'éléments de fuselage et de supports de réacteurs.
Oui, tout à fait, il fallait s'y attendre, vous l'avez dit, puisque Spirit Aerospace va limiter les heures supplémentaires et les embauches en raison de la baisse de production, bien évidemment, des avions 737 MAX de Boeing qui ont été confrontés, on l'a dit déjà assez souvent, des problèmes de qualité après les incidents, notamment cette porte qui a disparu, qui s'est désintégrée en vol sur un vol de Alaska Airlines. Et donc, évidemment, Spirit Aerospace en subit les méfaits. Et donc, effectivement, on est dans une situation tout à fait classique pour tout ce qui entoure Boeing.
Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci également à Aude Kersulet.